moi, dès qu'on est arrivé dans la maison, moi j'ai, enfin bon, c'est vrai qu'il y a l'univers des films de Rivette, ça pour moi c'est vrai. Dès qu'il y a une maison, une grande maison comme ça, elle suscite des imaginaires. Alors là,
Oui, moi ça me plaît bien de filmer des maisons parce que c'est. Bah, c'est toujours comme un territoire à explorer, donc on peut toujours penser que, bon, on jouait là-dessus dans la dernière partie de Out, carrément comme un gag, que derrière chaque porte, il y a une sombre histoire, que si on ouvre la porte, on va déboucher sur... Oui, c'est un titre magnifique. C'est presque un plus beau titre que le film, parce que c'est pas le meilleur film de Fritz Lang.
C'est un beau film.
Oui, c'est un beau film, enfin, qui est un peu...
Film que j'aime bien.
Ah oui, moi aussi je l'aime beaucoup.
Non, mais
je préfère des Fritz Lang plus peut-être moins ambitieux, parce que quand il fait Big Hit, c'est une commande, alors Secret derrière la porte, c'est un choix qu'il avait fait lui, puisque c'est une maison de production qu'il avait fondée avec John Bennett et le mari de John Bennett pour faire. Puis ça a été un échec total et ça s'est arrêté là.
Derrière la porte est un beau titre, et c'est vrai que dans vos films en tout cas, derrière les portes, il y a des choses très lourdes toujours. Bon, non. La maison de Céline et Julie, il y a même un film que j'aime beaucoup, c'est L'amour par terre, la maison de l'amour par terre. C'est une maison qui est étonnante.
Ah oui, mais là on en avait franchement fait un personnage. Oui, Là on s'était amusé même beaucoup avec le décorateur à faire des pièces très théâtralisées de toutes les façons possibles et imaginables.
Non, c'est un beau film, L'amour par terre. Là encore, c'est bon.
Là, par contre, il y a une version beaucoup plus longue que celle que vous connaissez, qui n'est jamais sortie.
Oui. Ah, ça, j'aimerais bien le voir.
Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait de copie disponible parce que c'est un film qui dure 3 heures aussi, L'amour par terre.
Moi, je l'ai vu dans l'intégrale. Il y a eu une intégrale.
Mais c'était la version de 2 heures, forcément. Ah. Je crois pas. C'était où? C'était en quel cas?
C'était au quartier Latos, c'était soit au 3 Luxembourg, soit une petite salle qui est près du Luxembourg.
Mais il y a déjà plusieurs années, alors.
Ça doit être.
Je me souviens pas. Ah oui, peut-être pour le Festival d'automne, non? C'était pas lié au Festival d'automne.
Ils ont tout passé, ils ont passé Hurlevent.
Ça devait être lié au Festival d'automne, peut-être. J'avoue que je m'en étais pas mêlé.
Ils ont même passé Vénégourand, ils ont tout passé.
Oui.
Moi, j'ai pas pu aller tout voir,
ça devait quand même être la version, celle qui est sortie à l'époque, qui dure deux heures juste. Alors qu'en fait, il dure 2h50, exactement la même durée
que
Secret Défense, même si ça n'a pas grand rapport.
Non, parce que là, plus dans le théâtre, c'est pour ça que je disais, c'est plus un thriller. C'est au sens où, thriller au sens large, au sens où Kiss Me Deadly est un thriller, mais c'est un thriller métaphysique, je trouve, Kiss Me Deadly, en fin de compte, parce que c'est le sens de la vie, ce sont des choses aussi importantes que ça qui sont dans Kiss Me Deadly saisies. Je trouve que c'est un film profond, et je trouve que c'est le cas de Secret Défense, et je trouve que c'est le cas de beaucoup de vos films. En fait.
Et puis, la bande-son. Notamment la tessiture d'avancement, quand on entend les bruits de guerre, on se demande ce qu'elle trafique là, quand même, où elle est.
Bah, dans mon esprit, c'était très simple. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté très tard au mixage, pour des raisons, parce qu'on avait des pépins dans le son direct. En même temps, c'était des scènes, surtout la scène avec la son amie là, de confidence. Oui. Elle était impossible à resynchroniser, enfin, me semble-t-il. Mm-hmm. Enfin, j'avais pas envie. Et donc, pour moi, c'est un bruit mystérieux. Parce que pour moi, je sais pas, il y avait une explication. Oui, c'est ça, c'est la télé des voisins, c'est la télé des voisins qui fait du bruit.
Enfin, c'est la télé des voisins, mais en même temps.
Ah bah, ça passe, on passe des choses qui font bing boum, oui, parce que c'est. Mais presque par hasard, puisque à partir du moment où on prenait la bande sonore d'un film, le plus simple c'était de prendre un film produit par Martin Marignac, par Pierre Grise. Et bon, ben voilà, justement, ce film d'Otard, très récent, donc oui, effectivement, il y avait. Alors, il y a la première fois, là, puisque ça revient deux fois, la première fois, c'est effectivement. Séquence contemporaine, et par contre, la deuxième fois avec Amia, où il y a des chevaux et tout ça, c'est le Moyen-Âge.
On a dit que pour faire. Pour découper le cadavre, pour l'examiner, et pour l'examiner la cause, pour pour savoir comment ça a fonctionné, ça devient froid, ça devient... Et la méthode, dans le froid, c'est la comédie. Parce que la comédie, c'est jamais chaleureux. C'est toujours glacial. Et c'est comme scalpel hein, qui découpe le corps. C'est vrai qu'on ne peut pas découper le corps vivant. Parce que le corps vivant, par exemple, aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Rwanda. Ou le corps vivant, c'est ce qui se passe en Yougoslavie. En Algérie, surtout en Algérie, oui. Le corps vivant, on ne peut pas faire l'analyse parce que la page n'est pas tournée encore. Mais dès que la page est tournée, on peut en tirer les conséquences. Et on peut faire la conclusion. Et la conclusion est toujours dans l'histoire de l'humanité, c'est comique. C'était la bêtise, c'était une erreur. C'était une folie, et c'est propre à la méthode de la comédie.
Et ce qu'il y a, c'est que là, on voit bien le médecin, celui qui a voulu être médecin à un moment donné, qui parle, parce qu'il y a quand même quelque chose de très analytique dans la démarche de ton film, et qui est quand même très différente de ce qu'il y avait dans les films précédents, parce que dans Pastoral ou dans Le Merle Chanteur, il y a quand même... une critique, je dirais, ironique, douce, amère, tendre, alors que dans Brigand, on est carrément dans le grinçant et la cruauté, parce qu'on est dans le chaos et la barbarie. Le film commence quand même, à mon avis, en pleine barbarie. Ça saute de partout, ça tire de partout. Et en même temps, il y a des irruptions de choses parfaitement drôles dans la pire horreur. Par exemple, les armes qui vont tirer sur des bouteilles et qui ratent l'humain. Mais je dirais, dans le décalage entre les deux, il y a toujours l'humain qui est sauvé dans le film. Et en même temps, on est plus dans l'ironie douce amère. La comédie je pense à la séance de torture, c'est une des séquences les plus dures et les plus drôles que j'ai vues depuis bien longtemps.
Entre parenthèses, quand vous avez le reflet des tortionnaires et quand vous avez la cuisine, comment ça se prépare, c'est beaucoup plus dur à voir qu'est-ce qui se prépare que voir la torture elle-même. Là. Ça appartient à la méthode, là, si vous voulez. À la méthode de jamais montrer des actes de violence directement, mais plutôt de donner aux spectateurs la possibilité d'imaginer qu'est-ce que va se faire avec ces instruments qui sont minutieusement préparés et passés par les hublots quelque part là. Ce période qui est décrit dans au milieu de ce film, il était tout à fait terrible, tout à fait insupportable comme période pour les gens qui ont vécu à cette époque-là. Mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, nous, on pense que le malheur nous arrive justement aujourd'hui et que ça n'a jamais eu lieu à tel degré. Pourquoi on a fait ce film-là ? Pour rafraîchir le mémoire et pour dire que, écoutez, mes enfants, c'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça, et ne pensez pas que vous vivez dans une période exceptionnelle. Et n'imaginez pas que c'est uniquement maintenant que le malheur, première fois, s'installe sur la surface de cette terre.
Pour filmer le couloir dans chaque corridor, il nous fallait de la distance dans notre travail. Nous avons réduit pour cela la distance en perspective. un de mes très chers amis qui s'appelle Angelo Rossito et qui est vendeur de journaux sur l'Hollywood Boulevard et qui par ailleurs diplômé en histoire américaine, bien qu'il soit un nain, c'est-à-dire un homme de petite taille. Mais ce que je peux vous dire, c'est que dans sa tête, tout est admirablement proportionné. Alors j'ai dit à Angelo Rossito, qui est un très bon ami, « Je veux tous les nains et hommes de petite taille que tu connais. » Il m'a dit « Combien tu en veux ?» Je lui ai dit « J'en veux une dizaine ou une quinzaine. » Alors on a pris tous les nains et les petits nains ensemble, et à chaque fois que dans chaque corridor vous voyez le couloir, les gens sont disposés selon la taille à partir de la moitié de l'espace du couloir, et ce, jusqu'à la fin du corridor. Voilà toute l'histoire de ce couloir.
This is the stage, right the way we are, right here.
Voilà, là, le...
But it's not long enough.
C'est pas assez long.
So we shoot that way. So we have to have distance. And an artwork is called foreshortening. Just go down like that.
On réduit la distance en perspective.
Now a very dear friend of mine, called Angelo Rossito.
Angelo Rossito, un grand ami à moi.
He sells newspapers on Hollywood Boulevard. The University of Michigan. And he's a PhD in American history. But he's a dwarf. He's a man who's very, very small. He's beautifully proportioned. And his head. He's perfectly proportioned. Now I told Angelo Rossito, who's an old friend of mine, I want all the dwarfs and midgets you know.
He said,
how many do you need? 10, 15. Give me dwarfs and midgets together. Every time you saw that corridor of men
talking
like that, I just graduated down the height. Halfway down the steps, all the way to the end. And it even fooled me. And this is the end.